Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Et on doit bien vous avouer qu'on est resté quoi ? Et c'est pas souvent, lorsqu'on a appris cette nouvelle.
Une espèce de poisson d'Amérique centrale peut éprouver un chagrin d'amour.
Alors on s'explique, hein. Lorsqu'il est séparé de sa moitié, eh bien il déprime. Et c'est la première fois que l'on observe de l'attachement émotionnel à un partenaire en dehors de l'espèce humaine.
Et ce sont des chercheurs de Bourgogne qui sont arrivés à ces conclusions.
L'un des auteurs de cette étude, qui est aussi docteur en biologie du comportement animal, est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous, Chloé Lobu.
Bonjour.
Ce petit poisson, quel est son nom et est-ce qu'il est monogame ?
Alors, c'est le cichlidé zébré, oui, donc c'est un petit poisson tropical d'Amérique centrale. Et en effet, sa particularité, c'est d'être monogame à soins biparentaux. Donc ça veut dire que le mâle et la femelle vont s'apparier et en fait vont s'occuper vraiment ensemble de leurs jeunes. Il y a un partage des soins parentaux, donc il y a un besoin important de coordination entre le mâle et la femelle. Sur une période de temps longue, les couples sont stables pour pouvoir vraiment prendre soin de leurs petits.
Et pourquoi vous êtes précisément intéressé à ce poisson en particulier ?
Alors en fait, la plupart des études sur la monogamie dans le monde animal sont faites chez les oiseaux, puisque 90% des espèces d'oiseaux sont monogames. Et l'idée là au laboratoire, c'était d'étudier une espèce assez distante pour voir si on pouvait observer des choses aussi qui pouvaient être similaires à la coordination chez les oiseaux. Mon collègue François-Xavier a l'habitude de dire qu'on étudie un oiseau à écailles. Donc c'est vraiment cette idée, le cichlidé zébré, c'est un poisson qui a un régime d'appareillement qui est similaire aux oiseaux.
Et comment...
C'est pas le cas de tous les poissons, hein, loin de là.
Non. Ouais.
Et comment se passe l'expérience ? Donc vous avez un couple dans un aquarium, vous les séparez et vous observez, c'est ça ?
C'est méchant, hein.
Alors en fait, oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à une femelle deux mâles. Elle en a choisi un des deux, donc elle a commencé à se mettre en couple avec l'un des deux. Et pour la moitié des femelles, on a retiré donc le mâle qu'elle avait choisi. Et pour l'autre moitié, on a retiré celui qu'elle n'avait pas choisi. Donc dans un cas, elle reste avec son partenaire et dans l'autre cas, elle est séparée de son partenaire. Mais dans tous les cas, elle reste avec un individu. Elle n'est jamais seule. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte que les femelles qui étaient séparées de leur partenaire devenaient pessimistes. Donc leur état émotionnel devenait plus négatif. C'est pour ça qu'on peut parler de prémices d'attachement émotionnel entre les partenaires.
Pardon pour ma question, Chloé Lobu, mais comment on constate qu'un poisson est pessimiste ?
Oui, ou déprimé ?
Oui, c'est une bonne question qui nous a quand même torturé l'esprit pendant de longs mois, parce qu'il fallait réussir à trouver une mesure objective de l'état d'optimisme ou pessimisme du poisson. Donc en fait, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de tests en psychologie, ce qu'on appelle le test d'ambiguïté. Donc typiquement, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié rempli.
Oui.
Est-ce qu'on le voit à moitié plein ou à moitié vide selon notre état émotionnel ? Donc cette interprétation optimiste ou pessimiste est en fait un indicateur direct de l'état émotionnel. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à transposer ce test chez les poissons, donc à les placer devant une situation ambiguë pour voir comment ils allaient y répondre.
Et c'est quoi la situation ambiguë ?
Alors, la situation ambiguë, on a d'abord appris aux poissons à ouvrir des boîtes qui renfermaient une friandise. Donc, pour les poissons, c'est un petit verre de vase. Et donc, les poissons apprenaient que dans certaines boîtes, il y avait toujours la friandise. Donc, par exemple, c'était une boîte avec un couvercle noir. Et à l'inverse, la boîte avec le couvercle blanc, il n'y avait jamais la friandise. Donc là, on a une situation qui est positive, le couvercle noir, la friandise. Mmh. Et une situation qui est négative, le couvercle blanc, elle est vide.
Mmh.
Et donc, à partir du moment où les poissons ont appris ces deux situations, bah, on va pouvoir leur présenter une situation qui est ambiguë. Ça va être une boîte avec un couvercle gris. Donc c'est intermédiaire entre le noir et le blanc. C'est vraiment l'équivalent du verre à moitié rempli. Et donc ils peuvent l'interpréter de manière optimiste, aller l'ouvrir en pensant que bah, gris c'est plutôt proche de noir, il va y avoir la friandise. Ou à l'inverse, être pessimiste et donc ne pas aller ouvrir cette boîte. Donc on a vraiment une mesure objective de dans quel état se trouve le poisson.
Alors moi aussi je vais dire pardon pour ma question comme Frédéric tout à l'heure, mais... Pour avoir des sentiments, il faut de l'intelligence et un minimum de mémoire. On dit toujours une mémoire de poisson rouge. Pour ressentir l'être aimé, il faut un minimum de mémoire quand même.
Oui, et les poissons ont une très bonne mémoire en fait. C'est vraiment une idée reçue fausse de penser que les poissons ont peu de mémoire. Les poissons, là je vous parlais d'apprentissage des boîtes, noir et blanc. En fait, on a retesté des poissons qui avaient appris plusieurs mois après, donc ils n'ont pas été testés pendant plusieurs mois. On leur a représenté des boîtes avec des couvercles noirs et des couvercles blancs et ils se souvenaient très bien de quelle boîte contenait la friandise ou pas. Donc c'est vraiment une idée reçue, on peut apprendre plein de choses à des poissons et ils ont aussi une bonne mémoire. Donc ils se souviennent bien de leur partenaire, ils restent avec leur partenaire pendant longtemps, ils peuvent se séparer et se retrouver, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment une idée reçue.
Est-ce qu'il y en avait qui étaient...
continuent de nous surprendre.
Est-ce qu'il y en avait qui étaient tellement déprimés qu'ils ne voulaient même pas manger, hein, ils n'ouvraient aucune boîte?
Alors non, en fait, l'intérêt de ce test, c'est que vraiment, c'est une mesure d'optimisme et de pessimisme parce que les poissons continuent à répondre à la boîte positive. Donc, c'est pas des poissons qui sont prostrés dans leur coin.
D'accord.
Ils vont vraiment continuer à répondre à la boîte qu'ils connaissent, ne pas répondre à la boîte qui est négative. Et c'est vraiment sur cette ambiguïté qu'il y a une différence de réponse. Donc là, c'était quelque chose d'important dans le test. Il fallait qu'ils continuent à répondre au signal positif.
Une dernière chose, Chloé Lobu, on peut sourire, on peut trouver ça anecdotique, mais en réalité, ça nous apprend quand même énormément de choses, surtout qu'on ne sait pas grand-chose sur les animaux, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, ça nous apprend beaucoup de choses sur les émotions. Pendant longtemps, on a nié les émotions aux animaux, alors encore plus chez les poissons, qui sont des animaux très peu expressifs, donc on a du mal à se dire qu'ils peuvent avoir des émotions. Ça pose aussi des questions sur l'évolution de l'attachement entre les partenaires, même chez notre espèce. Quand on parle plus globalement de l'amour chez l'être humain, on pense toujours que c'est irrationnel. Mais peut-être que si déjà il y a des prémices d'attachement émotionnel chez d'autres espèces, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que ça a évolué, quelle est l'importance de ça dans un sens évolutif.
Oui, allez-y, terminez.
Non, je dis ça amène aussi des questionnements sur des questions de bien-être animal, sur la façon dont on élève aussi les poissons.
Et ça ne vous a pas déprimé, vous, Chloé Lobu, de découvrir que les histoires d'amour finissent mal en général, y compris chez les poissons?
Non, elles finissent aussi bien très souvent.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué, c'était beaucoup plus clair et c'est très intéressant, Chloé Lobu. Merci beaucoup.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et Iban qui est avec nous. Bonjour Iban, bienvenue.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Oh, bonjour Iban.
Iban, est-ce qu'on peut te tutoyer parce qu'il me semble que tu n'es pas très vieux?
Non.
Donc on peut te dire tu.
Oui.
Quel âge tu as, Iban?
J'ai 12 ans.
Tu es donc au collège?
C'est ça.
Cinquième?
Sixième et je vais bientôt entrer en sixième.
Bientôt entrer, donc tu as fini la CM2 en fait? Le CM2.
J'ai fini la sixième.
D'accord, et tu passes en cinquième?
Oui.
D'accord. Vous ne comprenez rien, Frédéric.
C'est gentil d'intervenir pour souligner mes défauts, hein, comme d'habitude. Iban, du coup, tu es déjà en vacances?
Oui.
D'accord, et tu es en Bretagne, c'est ça?
C'est ça.
Où ça en Bretagne?
Entre Lannion et Guingamp. Mmh.
D'accord. Donc il n'y a pas la canicule, là, il fait juste bon en fait.
Il fait bon, ouais.
C'est bien. Tu vas faire quoi pour les vacances?
Je vais aller voir Boulevard Désert, au Festival des Vieilles Charrues.
Génial. Tu les aimes bien? Moi, je les adore, Boulevard
Désert.
Ouais,
j'adore.
Ah ouais. Bah, là, je disais justement, ils ont écrit un des titres de Yannick Noah sur son dernier album qui va sortir en automne. Donc ils sont partout. Ils sont aussi aux Vieilles Charrues, t'as de la chance, Iban.
Oui.
Bon, on papote, il y a quand même une compile des talents France Bleu à gagner. Ouais. Est-ce que tu as vu Le Monde de Nemo?
Oui.
Alors, Nemo, c'est quoi? C'est un poisson clown ou une carpe?
Un poisson clown.
Bah oui, évidemment. Iban, t'as gagné, on t'envoie le disque et on te fait en même temps des gros bisous.
Bah, gros bisous à vous aussi. Hein.
Ouais, bonne journée, bon été,
merci.
Iban.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances, au revoir.
Au revoir.
France Bleu, une heure en France.
Depuis quelques jours, au château de Chenonceau, on peut visiter une apothicairie semblable à celle qui existait au XVIe siècle, quand la reine Catherine de Médicis y habitait, entourée de son médecin et du savant Nostradamus.
La pharmacie renferme 500 bocaux, des pots de faïence bleue et blanche disposés dans des magnifiques boiseries.
C'est un hommage à Catherine de Médicis, dont on célèbre cette année les 500 ans de la naissance. Et c'est la directrice de la communication du château qui nous rejoint. Bonjour Caroline Darras.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'on avait comme document d'époque pour arriver à restituer cette apothicairerie?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, la chose que l'on connaissait, c'est le fait que cette apothicairie existait dans le bâtiment des Dômes, où on l'a reconstituée actuellement, mais pas au même endroit et de dimensions beaucoup plus petites.
Et à quoi ça ressemble aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, en fait, l'apothicairie qui se trouve à Chenonceau, c'est une apothicairie palatine et florentine. C'est-à-dire que notre conservateur l'a acquise dans un palais florentin où elle avait été transformée en bibliothèque. Donc on a eu une chance assez inouïe parce que pour récupérer et pour trouver surtout une apothicairie dans son entité, c'est très compliqué, voire impossible. Donc actuellement, on a dans ce bâtiment des Dômes une apothicairie complète, c'est-à-dire une salle assez énorme qui fait plus de 60 mètres carrés de boiserie, sachant qu'elle est arrivée un peu en kit et que deux menuisiers ébénistes d'art ont travaillé sur le sujet pendant 3 ans.
Ah, 3 ans.
Alors il y a ces pots, ces bocaux, ces balances hein, avec les poids qui emplissent les étagères. Qu'est-ce qu'il y a dans les bocaux? Des vrais médicaments pour soigner?
Alors, les bocaux, en fait, sont des bocaux d'apothicaire. Donc, en gros, il y en a une petite partie qui date les plus anciennes du XIVe siècle, ensuite 15e, 16e, 17e, 18e. La plus grosse partie étant du 17e. Alors, toujours la même chose. En fait, évidemment, pour avoir une collection pareille, il ne faut pas les chiner un par un. Donc, même chose, on a fait appel à des antiquaires spécialisés qui nous ont, en fait, trouvé des collections complètes. Et pour répondre avec précision à votre question.
Merci.
Quand on les achète, il se trouve qu'il y en a des vides et puis il y en a des pleins. Donc il y a tous les médicaments de l'époque qu'on retrouve encore aujourd'hui avec des dosages évidemment différents. Certains assez proches du poison, parce que si on a de la strychnine, ben, vaut mieux faire un peu attention quand même. Et puis on retrouve des choses assez amusantes. Hein. Voilà, c'est il y a donc environ 500 pots, des mortiers, puisque le mortier, c'était vraiment l'instrument de base de l'apothicaire de l'époque qui est devenu le pharmacien d'aujourd'hui, c'est-à-dire le pilon pour piler différents médicaments. Et on retrouve tous les pots et les vases d'apothicaire avec des noms assez amusants, comme par exemple les chevrettes, qui sont des pots avec un bec qui ressemble à une corne de chèvre, des albarelli, des pots à teria, qui sont des gros pots avec jusqu'à 60 ingrédients à l'intérieur, etc.
Caroline Darras, on disait l'italienne empoisonneuse. Elle était fascinée par les onguents, les filtres, les potions. On connaît sa proximité avec Nostradamus. Elle était mystérieuse. Elle cultivait ça?
Alors en fait, c'est vrai qu'il y a cette légende noire qui est une sorte de mythe, on va dire. La réalité, c'est qu'à l'époque, les nobles, et en l'occurrence une reine Médicis arrivant d'Italie, toutes les personnes qui le pouvaient avaient quelqu'un qui lisait dans l'avenir pour eux. Alors pour elle, c'était Ruggieri, parce que Nostradamus, qui en effet est venu à la cour de Catherine de Médicis à sa demande, était au départ médecin. Il avait fait la faculté de médecine de Montpellier, qui à l'époque était extrêmement reconnue. Donc c'est un médecin au départ.
D'accord, il a été herboriste aussi?
Herboriste, bien sûr, oui, l'herboriste étant l'ancêtre, on va dire, du pharmacien, enfin plutôt l'apothicaire. Il était herboriste, exactement. Elle avait un médecin français qui s'appelait Augier Ferré, et Nostradamus s'appelait Michel de Notre-Dame, et était donc médecin au départ.
D'accord.
Et puis, il a fait des prédictions qui se sont avérées réelles, et donc il a été plus employé pour ses talents-là, on va dire.
Et pour faire simple, on peut dire que l'apothicairerie, c'est l'ancêtre de la pharmacie aujourd'hui.
Vous le dites doucement, c'est pas facile. Ah
ben c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est au fil des siècles, les apothicaires n'existent plus, ils ont été tout a été codifié et les apothicaires sont devenus les pharmaciens actuels, exactement.
Est-ce qu'on est vraiment estomaqué quand on ouvre les portes, enfin on les ouvre pas, j'imagine, mais quand on rentre dans cette pièce?
Ah ben oui, c'est la seule dans un château du Val-de-Loire et elle a des dimensions exceptionnelles. Donc on est estomaqué, oui. Il y a aussi une pièce centrale qui va se transformer en plus certainement en pièce pédagogique. Et il y a une toute petite salle pédagogique où on a la chance d'avoir une magnifique gravure qui montre Catherine de Médicis dans l'antre de Nostradamus et qui explique un peu pourquoi une apothicairie, pourquoi elle existait là, qui était Michel de Notre-Dame, etc.
On va venir.
La nouvelle apothicairerie de Chenonceau en Indre-et-Loire à l'occasion des 500 ans de la naissance de Catherine de Médicis.
Merci de nous en avoir si bien parlé aujourd'hui, Caroline Darras.
Merci à vous.
On a passion de la découvrir.
Et essayez de le dire vite, vous.
Apothicairerie. D'autres questions? Non, bon, je ne vous redemande pas à vous. Ça ne va pas le faire.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou, sur France Bleu.
Et si dans quelques années on dégustait des pistaches de France plutôt que des pistaches qui viennent du bout du monde? Des agriculteurs réintroduisent le pistachier en Provence.
Un apéro avec des pistaches du Luberon, ça aurait de l'allure quand même.
Ça en jetterait pas mal. Ouais.
Mais pas seulement, des pistaches pour faire des farces ou des terrines ou dans la crème glacée.
Le pistachier en Provence, on prépare le terrain parce que la première production arrivera dans 5 ans. Bonjour Jean-Louis Joseph.
Oui, bonjour.
Alors, on parle de réintroduction de la culture du pistachier, car il y en avait, mais ça remonte à très longtemps.
Oui, on a fait des recherches et on a trouvé qu'il y avait de la pistache à l'époque romaine. C'était un gouverneur romain qui avait ramené des plants de pistachier de Syrie, parce qu'avant, il était gouverneur en Syrie. Ensuite, on en a trouvé pendant la période des croisades, où les croisés revenant, pareil, de l'autre bout de la Méditerranée, ramenaient des plants de pistachier. Et puis, j'en ai trouvé sur les marchés de Provence au début du siècle dernier, vers 1900 et quelques.
Et alors, le pistachier se plaît avec le climat provençal ?
Eh ben avec le réchauffement climatique, nous pensons que c'est une alternative aux plantations actuelles, possible, pas que, ouais. Bien sûr. Et aux zones défavorisées, il fait très chaud, il va faire plus chaud de plus en plus. Mmh. Et le pistachier aime la chaleur et c'est un arbre très rustique.
Eh ben il est servi en ce moment pour la chaleur. Voilà. Pour l'instant, vos pistachiers sont tout petits. Vous les avez plantés il y a quelques mois. Il faut attendre 5 ans.
J'ai fait un verger expérimental il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai planté 600 arbres cette année, enfin l'hiver dernier.
Et pourquoi il faut attendre aussi longtemps? C'est 5 ans, c'est ça, avant d'avoir des pistaches?
Ah ben c'est tous les arbres à fruits, hein.
Ah d'accord, j'ai dit une grosse bêtise.
C'est pareil pour les cerisiers, pour les amandiers, pour toutes les plantations. Le minimum, c'est 5 ou 6 ans. Hein.
Bon ben j'ai appris quelque chose.
Jean-Louis Joseph, vous avez travaillé sur, je pense que oui, sur les débouchés, sur la clientèle possible d'une pistache française. Parce que le marché aujourd'hui, il est dominé par l'Iran, les États-Unis.
La Grèce aussi.
Ah oui.
Alors, ce que nous avons trouvé également, enfin ce que nous savons, c'est que la France importe 10 000 tonnes de pistaches et n'en produit pas. Et nous savons que les premières récoltes, on a tout naturellement le débouché, puisque cette initiative de relancer la culture de la pistache vient de Monsieur Olivier Bosson, des Calissons du Roi-René, qui achète chaque année 5 à 6 tonnes de pistaches, également un grand pâtissier parisien, Monsieur Hermé, qui achète lui aussi 1 à 2 tonnes de pistaches, et qui sont obligés de les acheter, comme vous l'avez dit, au bout du monde, soit en Californie, soit en Iran, mais peut-être plus près en Tunisie, et bientôt en Espagne, parce que les Espagnols aussi se mettent à planter des pistachiers.
Est-ce que ça a besoin de beaucoup de soins les premières années, le pistachier, ou pas particulièrement?
Ben, comme tous les petits arbres, les 3 premières années, il faut un peu les arroser, mais après, c'est très rustique. C'est sûr que si on l'arrose, il va bien pousser, mais le pistachier, il faut pas trop l'arroser, parce que le tronc craint l'humidité.
Jean-Louis Joseph, en parlant d'un peu de météo, il fait quelle température là où vous êtes?
Ah ben, près de 40 degrés.
Vous êtes à l'ombre, pour nous répondre.
Je suis à l'ombre. Mais vous savez, nous, les Provençaux, on craint moins la chaleur, parce qu'on a l'habitude.
Bien sûr.
C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des canicules et des fortes poussées de chaleur.
On entendait dans les infos... Donc,
c'est vrai qu'il faut s'en prémunir, mais nous, on a l'habitude. Nos maisons, en tout cas les plus anciennes, sont faites pour...
Ben oui, on entendait dans les infos hier, les Nîmois, qui effectivement... un petit peu de recul par rapport à cette canicule.
On vous appelle à la Bastidone, c'est au nord d'Aix-en-Provence, dans le sud du Vaucluse.
C'est dans le parc naturel régional du Luberon, dans le sud du Luberon.
Oui, absolument. Les pistachiers reviennent en France, c'est une bonne nouvelle.
Merci Jean-Louis Joseph.
Mais merci à vous.
Bon été, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.